Bonjour Stanislas.
Bonjour Pascal.
On est sur le dernier module d'aujourd'hui sur Azure Active Directory, cette introduction à Azure Active Directory. Et pour ce dernier module, on va parler d'une fonctionnalité qui s'appelle la synchronisation des annuaires, qui est un petit peu large, mais on va parler d'un cas particulier de synchronisation d'annuaires avec un outil particulier.
Exactement Pascal. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Quand on parle d'identité et qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est massivement hybride, c'est-à-dire des data centers historiques avec des informations sur site, et puis l'ajout, l'extension du système d'information et des services externes dans du cloud, eh bien, du coup, ça veut dire qu'on va utiliser, dans notre cas Microsoft, un service central, un point de contrôle central qui s'appellera Azure Active Directory. Et donc, il va falloir qu'on projette les identités de l'entreprise à destination de cet annuaire dans le cloud. Projection qui peut être totale ou projection qui peut être partielle en fonction des méthodes d'authentification et l'utilisation ou pas de la fédération qu'on va avoir derrière. Donc, plutôt que recréer des choses qui existent depuis des années, qu'on a cherché à consolider au sein des systèmes d'information, c'est-à-dire en gros l'annuaire, eh bien, plutôt que recréer à côté un annuaire et manuellement de ressaisir des nouveaux identifiants et de les gérer de manière indépendante, ce qui est ridicule, l'intérêt c'est tout d'avoir une synchronisation versus un existant, synchronisation totale ou partielle, tu vas revenir dessus, qui nous permet de reprojeter effectivement une partie de ce qu'on a dans l'extérieur afin que l'utilisateur ait cette expérience de single sign-on et qu'en tant qu'administrateur, il n'y ait pas de tâches très lourdes de maintien de cohérence entre deux systèmes. Donc, on va faire un petit point sur cette identité hybride et celle de la synchronisation. Ensuite, tu vas nous montrer l'installation de notre dernier outil de synchronisation qui s'appelle Azure AD Sync. Et ensuite, tu nous parleras de quelques scénarios. Donc, on a eu plein de produits de synchronisation chez Microsoft permettant de faire cette synchronisation depuis Active Directory à destination de Azure Active Directory. AD Sync, Dir Sync, FIM, MSSP, MMSSP.
Prononcé Mississippi, je crois.
Mississippi. Par les pros, tu vois. Je ne suis pas un pro. Donc Mississippi, rappelle-nous quand même ce que c'était.
Donc Mississippi, en fait, c'est l'outil de synchronisation d'annuaire qu'on utilise quand on avait un Microsoft Online.
BPOS, Business
BPOS,
Public. Voilà, BPOS.
Exactement.
Donc l'ancêtre d'Office 365 pour les.
En mode dédié.
En mode dédié. Donc non en mode mutualisé, tout le monde sur les mêmes serveurs. Donc à retenir, la seule chose à retenir, c'est que désormais on a un nouvel outil qui s'appelle AD Sync, qui va remplacer tous les anciens outils. La bonne nouvelle, c'est que vous inquiétez pas, c'est pas le fait d'installer cette nouvelle outil qui va tout casser. La migration se fait relativement simple, c'est simplement l'outil qui a un petit peu évolué et qui est mieux et plus maintenu. Et du coup, ce sera un seul outil unique maintenant et plus différentes versions de Dir Sync gérées par différentes équipes qui va servir.
Ouais, il faut préciser également qu'il y avait la solution FIM plus le connecteur Azure Active Directory qui marche toujours, hein, qui fonctionne toujours très bien. Simplement, on a des nouvelles fonctionnalités dans AD Sync qui ne sont pas du tout prises en charge par le connecteur AD de FIM. Donc ça vaut quand même vraiment le coup de passer tout ça à AD Sync.
Néanmoins, il y a certains scénarios dans lesquels AD Sync ne fonctionne pas. Hein, la synchronisation de mots de passe, c'est pas fait par AD Sync.
Non, ce sont certains scénarios pris en charge par AD Sync qui ne fonctionnent pas avec FIM et son connecteur.
D'accord, non, pour moi, j'ai mal lu.
Voilà, c'est pas grave. Et notamment la synchronisation des mots de passe, la synchronisation des périphériques qui est intéressant quand on fait du workplace join dans le cloud, qui est une fonctionnalité un petit peu en preview également. Et puis le password write back, c'est-à-dire quand on fait un reset de mot de passe dans Azure Active Directory, il y a des scénarios où il est intéressant de rebalancer ce reset vers l'Active Directory interne.
Ouais, exactement. Principalement, le scénario de fédération pour être précis. Donc, différents types de synchronisation qui peuvent exister. Donc, à retenir, c'est que l'objectif, en fait, est de synchroniser, pour faire simple, l'Active Directory de Windows Server avec l'Active Directory de Windows Azure Active Directory. Donc, on va dire que le bridge entre les deux mondes s'appelle AAD Sync. Donc, c'est vraiment l'outil qui va permettre de synchroniser ces deux mondes. Sachant qu'un Active Directory en interne sur Windows Server peut lui-même être synchronisé avec d'autres éléments d'identité dans l'entreprise. Donc, on va parler ici de méta-annuaire, on va parler de FIM. Et donc on va parler d'autres bases, donc des bases internes LDAP par exemple, qui au travers des mécanismes de FIM vont répercuter les changements au sein de l'Active Directory de Windows Server. FIM, lui-même en fait.
Qui a changé de nom récemment d'ailleurs.
FIM désormais qui s'appelle MIM, comme Microsoft Identity Management. Voilà. Mais c'est toujours l'Identity Management au final. Donc l'idée c'est de projeter effectivement les identités de ce qui sont sur site dans le cloud privé d'AD vers Windows Azure ou Microsoft Azure Active Directory.
Voilà.
Active Directory qui lui-même en fait peut également synchroniser certains éléments des groupes ou des utilisateurs avec d'autres référentiels qui sont dans d'autres plateformes de cloud, Salesforce, Box, Dropbox for Business, etc. Donc là encore, on peut avoir également une sorte de réplication et de provisioning, déprovisioning qu'on appelle entrante ou sortante en fonction effectivement des plateformes qui sont en face, de façon à ce qu'effectivement on maintienne une cohérence dans les identités et qu'au final on n'utilise qu'un seul repository à l'échelle du cloud, qui est en fait Azure Active Directory. Donc ça devient vraiment le pivot central de l'identité et ce point de contrôle pour les utilisateurs.
Donc pour l'installation d'AdSync, déjà il y a des prérequis sur la machine sur laquelle on va installer le produit. Donc c'est un produit qu'on télécharge sur le Download Center hein, pour l'instant. Comme prérequis, c'est assez simple. Au final, il n'y a vraiment pas de gros prérequis. Il faut un Windows Server à partir de 2008. Donc jusqu'à 2012 R2, c'est supporté. Ça peut s'installer sur un contrôleur de domaine comme sur un serveur membre ou comme sur un serveur autonome. Aucune contrainte là-dessus. Ça peut utiliser SQL Server depuis les versions 2008 jusqu'à ce qui existe aujourd'hui, jusqu'à 2014, y compris en version express locale de base. Ça nécessite du .NET 4.5 et puis PowerShell, de préférence 3.0 à partir de la version 3, mais bon, on n'a pas de préférence. Enfin, ça fonctionne avec la 2 également. Et puis ça peut utiliser un compte service de service local, c'est ce qui sera fait par défaut par l'installateur. Ou si on veut utiliser un compte de domaine pour le compte de service, on peut le faire. À ce moment-là, il faut faire quelque chose de spécifique. Donc tous ces prérequis-là sont assez simples. Donc la démo qui marche toujours, hein, la démo dite PowerPoint, pour l'installation du produit. Donc on va sur le site, le Download Center de Microsoft, on télécharge l'exécutable, c'est un exécutable, on le lance. Et ça va d'abord commencer par installer les prérequis, à savoir SQL Express LocalDB si on n'a pas d'SQL ou qu'on ne souhaite pas utiliser un SQL complet. L'assistant, le sign-in client de Azure, le composant de synchronisation évidemment, puis le connecteur Azure Active Directory. Donc tout ça c'est la cuisine interne, c'est installé automatiquement par le client. Si on veut faire différent de ce qui est fait par défaut, on peut lancer l'exécutable avec un certain nombre d'options qui sont documentées pour spécifier par exemple le serveur SQL, le fait également de sauvegarder les clés de chiffrement parce que évidemment tout ce qui est credentials, donc mot de passe, etc. de compte de synchro est sauvegardé par l'outil, donc est chiffré, protégé par des clés de chiffrement. On peut, si on veut, exporter ces clés de chiffrement. Donc par défaut, ça s'installe sans poser de questions. Donc si on passe à la suite, si on fait next, on va se connecter à l'Azure Active Directory. Donc la première chose qu'il faut fournir, c'est le nom d'un compte de l'Azure Active Directory qui soit administrateur global dans l'Azure Active Directory. Donc à noter, admin global dans AAD, ça se traduit par company admin dans Office 365. Hein, ce n'est pas les mêmes gens qui ont fait, donc voilà, il faut le savoir.
Point encore plus important, je pense, c'est le suivant.
Et oui, c'est qu'il vaut mieux éviter d'activer MFA, donc l'authentification multifacteur pour ce compte. Parce que le connecteur de synchronisation ne va pas sortir ses petites mimines pour aller taper un SMS ou lire un SMS sur un téléphone.
Exactement.
Ça va être un petit peu compliqué.
Ça paraît bête, mais c'est bon de le rappeler.
Donc on met le nom, le mot de passe. Ensuite, troisième étape, donc la synchro va se faire entre l'Azure Active Directory et Directory, Active Directory local.
Windows Server.
Voilà. Et donc il faut un compte également qui ait les droits de lecture dans Azure, dans le Active Directory local. Donc n'importe quel compte convient, pas besoin de permission spécifique de réplication dans l'annuaire, etc.
Ouais, c'est un compte en lecture en fait, hein. Le but c'est de lire les objets principalement.
Voilà. Donc dans certains cas, certains scénarios très précis, il y a besoin pour ce compte de donner des permissions supplémentaires dans l'Active Directory. Ces scénarios, c'est par exemple quand on a de l'hybride exchange, on a besoin de permissions supplémentaires. Quand on va faire de la synchronisation de mots de passe, enfin, de synchronisation des hashes de mots de passe, évidemment, c'est ça qui est fait par le connecteur. Ou du password write-back, donc de la réécriture de mots de passe quand c'est modifié de côté Azure. Là, il faut quelques droits pour pouvoir justement, effectivement, déjà lire les hashes des mots de passe et les modifier le hash du mot de passe. Donc pareil, on mettait le nom et le mot de passe du compte. Ensuite, alors ce point-là est peut-être un petit peu plus délicat, mais le choix par défaut est à 95% le bon. Donc, si on a...
Donc on le garde.
Voilà. On le garde si on a une seule forêt. ou que dans notre environnement, même si on a plusieurs forêts, les utilisateurs n'apparaissent en actif qu'une fois dans toutes les forêts de l'environnement. Donc ce qui est le premier dessin. Donc dans le premier dessin, on voit qu'on a plusieurs forêts, mais qu'elles sont indépendantes les unes des autres, il n'y a pas de réplication, il n'y a pas de choses étranges comme ça, et donc on peut prendre tous les utilisateurs actifs de toutes les forêts et les répliquer dans l'Azure Active Directory. Donc ça, c'est le premier cas qui est indiqué ici comme étant, que je me le mette en gros sous les yeux, your users sont représentés, donc vos utilisateurs sont représentés une seule fois dans toutes les forêts, et on va faire le matching sur le mail attribute, donc le matching
sur c'est sur quel attribut. En gros, c'est l'UPN,
voilà,
de l'utilisateur.
L'UPN de l'utilisateur.
Okay.
Ensuite, deuxième scénario, si on a ce qu'on appelle le GAL sync, donc une synchronisation de GAL au niveau d'Exchange. On a Exchange, on a plusieurs forêts indépendantes, mais on a une synchronisation des listes, des annuaires d'adresses de mail.
Adresse locale, ouais.
Entre les Exchange, entre les différentes forêts. Donc dans ce cas-là, c'est un cas un petit peu différent du cas standard. Et là, il faut, on va trouver par exemple des utilisateurs qui sont actifs dans une forêt, et puis dans l'autre forêt, on va les retrouver, mais avec déjà inactifs ou sous forme de contact, ce genre de choses-là. Et donc là, on va faire un matching différent sur le object seed et un autre attribut qui s'appelle le Exchange Master Account Seed. Sachez que la deuxième option, c'est pour ce cas-là. Le troisième cas, c'est dans le cas où on a une architecture de type forêt de ressources, forêt de comptes. Et dans ce cas-là, il faut choisir le cas suivant. On va faire un matching sur le object seed. Bon, bref.
Okay.
C'est en très gros, bien documenté. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est... Hein. Mais le cas le plus répandu, une seule forêt ou des forêts indépendantes, on choisit l'option par défaut. Ensuite, il faut choisir le matching avec Azure Active Directory, mais là, c'est toujours le choix par défaut qui est le bon.
Qui est le bon.
Ensuite,
les fonctions optionnelles, Pascal.
Les fonctions optionnelles. Donc, j'ai parlé déjà de Exchange Hybrid. Donc, Exchange Hybrid, c'est quoi ? C'est quand on a de l'Exchange en local et de l'Exchange dans Azure. Office 365, et qu'on utilise les deux, et donc on veut synchroniser notre GAL, notre liste d'adresses, entre les deux.
Oui, histoire d'avoir une cohérence dans la liste de distribution et l'annuaire, en fait.
Donc dans l'annuaire,
on va avoir effectivement le même nom de mail, mais du coup on fusionne en fait deux GAL.
Donc si on choisit de cocher la case Exchange Hybrid Deployment, c'est qu'on va répliquer effectivement, on va faire cette réplication pour l'annuaire Exchange. La deuxième option, c'est le password writeback. Donc, c'est une fonction d'AD Premium qui consiste à faire un reset de mot de passe, etc., et de rebalancer cette mise à jour dans l'Active Directory.
Interne.
Et puis, la troisième option, c'est de faire un filtrage sur les attributs qui vont vers AAD.
Ouais. L'idée étant derrière, c'est qu'on n'a pas besoin toujours de tout synchroniser ces informations de l'AD.
Puis
vers Azure AD, et donc l'idée c'est de pouvoir choisir les attributs qui nous intéressent et de ne pas tout synchroniser l'AD. Est-ce que tu sais d'ailleurs, Pascal, petite question qui pourrait servir dans une question ultérieure, quel est le nombre minimum d'attributs nécessaires pour pouvoir faire fonctionner basiquement la synchronisation et la fédération ?
Et non, je ne le sais pas.
Eh bien, c'est 7.
7 ?
Ouais.
Je crois que c'était 42, mais.
Non, 42 est une réponse universelle, mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est 7.
Ok. Donc, le sixième écran, on choisit les applications Azure Active Directory que l'on veut supporter. Alors, c'est quoi ce support-là ? On voit par exemple que comme application, il y a Exchange Online, Dynamics CRM, etc. En fonction des applications qu'on va choisir ou ne pas choisir, on va définir la liste des attributs qu'on va répliquer. Donc, en gros, si on ne veut rien restreindre, on leur laisse la liste par défaut et puis comme ça, tout sera possible. Ensuite, si vraiment on a un RSSI qui est un petit peu pointilleux sur les attributs qu'il veut voir partir vers Internet, on va restreindre la liste, décocher des choses, etc.
Bien sûr.
Mais bon, je le déconseille un petit peu. Au niveau des attributs AAD, c'est donc le récapitulatif au niveau des attributs de ce qu'on a sélectionné auparavant. Et on peut refaire un nouveau filtrage ici. Alors, évidemment, il faut faire attention, quoi. Si on sélectionne des applications précédemment et que là on va supprimer des attributs qui ferait marcher une application, au final, on peut se retrouver avec des choses qui ne marchent pas du tout.
L'assistant n'empêche pas d'être un peu intelligent, c'est bien, normalement.
Oui, et d'y aller avec modération dans le filtrage. Écran de récapitulatif, on clique sur configure et ça va effectuer l'installation de notre produit, notre AAD Sync. Donc on a une case à cocher là, qui est Synchronize Now, synchroniser maintenant. Si on la coche, deux choses vont se passer. Effectivement, il va y avoir une première synchronisation qui va être faite avec AAD, donc on va pouvoir vérifier que tout se passe bien. Mais en même temps, on va créer une tâche programmée dans les tâches programmées du scheduler, les schedules de tasks, oui, les tâches programmées de Windows, pour faire toutes les 3 heures une synchronisation. Ce 3 heures, d'ailleurs, il est déconseillé de le changer. On verra plus tard, mais c'est déconseillé, c'est pas supporté de changer ces 3 heures. Cette tâche, elle va être créée active. C'est-à-dire qu'effectivement, 3 heures après, ça va recommencer. Si on décoche la case Synchronize Now, non seulement elle va pas être, la synchronisation ne va pas se faire tout de suite, mais la tâche planifiée qui effectivement est toujours créée ne va pas être activée. C'est-à-dire que même dans 3 heures, ça ne se passera pas. On aura installé, mais rien ne va se passer.
Donc le conseil du jour de Pascal Solière, c'est de ne pas toucher à cette case.
Le conseil du jour, c'est de savoir que si on coche, ça va être fait maintenant et toutes les 3 heures. Si on décoche, ça va être fait jamais.
Ok, le conseil du jour, c'est donc de cocher la case. Ou alors de recréer une tâche planifiée spécifique.
Ou d'aller coucher la case, enfin réactiver la tâche.
D'accord.
Dans le task scheduler. Donc ce qui est le plus simple.
Tout donc, démo.
Ça va être très simple. Là, j'ai une machine sur laquelle j'ai déjà effectué l'assistant et donc j'ai déjà installé la desync. Donc par exemple, si j'essaie de relancer l'assistant,
il va te redonner les mêmes paramètres.
Non, ça se passe différemment. Ça, c'était le comportement de desync.
Ah,
donc dans la desync, le comportement est différent. On me dit cette fois-ci de fermer l'application et de désactiver la tâche qui est dans le scheduler, dans le gestionnaire de tâches. Donc en fait, tant que la tâche risque de s'exécuter pendant que je fais des choses...
Ah, il n'y a pas en fait de modification, ce ne serait pas une bonne idée. D'accord.
C'est plutôt pas mal. Ouais. Donc si on veut modifier la configuration, ben, on va désactiver la tâche, on relance l'assistant et ça marche et on reconfigure notre truc. Donc là, ce que je vous ai ouvert, c'est l'outil qui s'appelle le Synchronization Service Manager. L'outil qu'on va toujours regarder.
Que les plus aguerris reconnaîtront, puisque finalement c'est un outil de ex-Forefront Identity Manager, donc désormais on va dire c'est un outil de Microsoft Identity Manager. Et en fait c'est le client Identity Manager.
Voilà. Donc c'est quasiment le même hein, que d'habitude. Par exemple, on peut regarder qu'on a un connecteur sur l'Azure Active Directory et un connecteur sur l'Active Directory local. On peut aller modifier leurs paramètres et puis là, on peut suivre les opérations au fur et à mesure où elles se déroulent toutes les 3 heures ici.
Super.
Il y a d'autres outils. Il y a un éditeur de règles de synchronisation qui vont définir qu'est-ce que je fais avec quels attributs, etc. au niveau des règles de sortie et d'entrée, etc. Et puis, il y a moyen par l'équivalent du menu démarrer qui est l'écran de démarrage. Donc on va trouver ici l'assistant qu'on va pouvoir relancer, le Synchronization Service, donc c'est ce que je viens de vous montrer, le Rules Editor, donc l'éditeur de règles, et puis un troisième outil qui est l'export des clés de chiffrement. Donc voilà pour la démo, ça nous suffit bien. Par rapport à une installation qui est déjà faite. Donc au niveau des configurations standards, pour une forêt unique, ben, c'est comme desync, il n'y a pas de différence. Pour les configurations multiforêts, on supporte beaucoup de scénarios, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Les forêts de compte, forêts de ressources, les réseaux complètement maillés avec plein de forêts partout dans tous les sens, on supporte. Il faut faire attention à quel matching on fait, comme on l'a vu tout à l'heure. Exchange Hybrid, on supporte. On supporte également les cas où il y a des groupes qui contiennent des Foreign Security Principles, c'est-à-dire des principaux qui sont extérieurs à la forêt, qu'on va mettre dans des groupes. Ça, on supporte également. On suppose toujours que chaque utilisateur n'a qu'un seul compte utilisateur activé. Ça, c'est important. Il faut toujours se raccrocher à ça. Et que chaque utilisateur n'a qu'une boîte aux lettres si on a du Exchange. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour avoir l'unicité des utilisateurs. Donc il y a des choses qu'on peut faire dans les modifications de la configuration par défaut de AAD Sync. Il y a d'autres choses qui sont moins supportées ou avec réserve et des choses qui ne sont pas supportées du tout. Par exemple, on a le droit d'aller modifier le domaine ou les OU qu'on va sélectionner pour faire la synchronisation. C'est le, par exemple, filtrer sur une OU des utilisateurs et pas tous les utilisateurs. On peut ajouter des règles de synchronisation dans l'éditeur de règles. C'est un petit peu, c'est pas simple à faire, mais on peut ajouter des règles. Ce qui est supporté, mais avec des réserves. Les réserves étant que si on fait une mise à jour, on va écraser tout ce que vous aurez fait dans ce domaine-là. Donc le filtrage sur les attributs, c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est supporté, mais ça sera écrasé. Et puis la modification de certains attributs des règles de synchro, comme les scopes et les joins au niveau des règles de synchro. Ce qui n'est pas du tout supporté, c'est de modifier des trucs un peu plus délicates au niveau des règles de synchro, comme les flux d'attributs, dire quel attribut devient quel attribut, notamment dans les règles prédéfinies par Microsoft. Donc c'est pas supporté. Pas supporté de supprimer une règle de synchro dans l'éditeur de règles. Et puis c'est pas supporté non plus d'ajouter un connecteur dans l'outil Synchronization Service Manager. Donc bon.
Oui, Synchronization Sync Manager, en fait, à l'origine, c'est, comme je dis, c'est un bout de forefront, donc voilà. On peut faire d'autres connecteurs. Mais là, il est mis dans un usage bien particulier, donc on n'y touche pas, quoi.
Pas trop.
Alors, non supporté, tu l'as dit.
Ce qui n'est pas supporté également, c'est d'avoir plusieurs serveurs, DirSync ou ADSync, vers le même tenant, ouais. Azure Active Directory, ce qui paraît logique. Sauf, dans un cas très précis, c'est quand on est en train de faire une migration de FIM ou de DirSync vers ADSync. Mais dans ce cas-là, attention à faire en sorte, à être sûr qu'il n'y a pas deux synchros qui se font en même temps vers l'extérieur. Sinon, ça n'ira pas. Ouais. Ce qui n'est pas supporté également, c'est de changer l'intervalle de 3 heures. Ça, c'est pas supporté dans la tâche programmée. Là, on peut le faire, mais non, c'est pas supporté. Donc bon, écoute, on a vu pas mal de choses, mais...
On a fait un joli tour. Hein. C'était finalement un bon petit cours MVA d'introduction à Azure Active Directory et plus particulièrement les fonctions premium. Je te remercie, Pascal.
Merci Stan, merci à tous.
Et puis, on se reverra prochainement sur un nouveau cours MVA. Merci, à bientôt.